Le journal d'Akif Molimal.
Épidémie d'Ebola déclarée dans la zone de santé de Wangata, dans la ville de Mbandaka en Équateur, et ce après la confirmation d'un cas. Les équipes de la santé sont déjà sur le terrain pour mener des activités de riposte, notamment les pistages et les suivis d'environ 74 cas. Reprise depuis ce samedi après-midi des combats entre FARDC et les rebelles M23 à Djomba. Cette reprise des affrontements a poussé la partie gouvernement aux consultations de Nairobi de chasser la partie M23 Makenga de la salle. Lutte contre le paludisme en RDC, les défis à relever dans la lutte contre cette maladie qui a touché près de 22 millions de personnes. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Dr Eric Mukomena. Il est directeur du programme national de lutte contre le paludisme. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Le ministre congolais de la Santé a déclaré ce samedi 23 avril une épidémie d'Ebola après la confirmation d'un cas dans la zone de santé de Wangata, ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Il s'agit de la troisième flambée épidémique dans cette province depuis 2018. Noël Aluzitu.
Jusqu'à présent, un seul cas a été confirmé. Le patient, un homme de 31 ans, a commencé à ressentir des symptômes le 5 avril. Le 21 avril, le patient a été admis dans un centre de traitement Ebola pour des soins intensifs, mais il est décédé plus tard dans la nuit. Après avoir reconnu les symptômes, les agents de santé ont immédiatement prélevé des échantillons pour les analyser au laboratoire en vue de détecter la maladie à virus Ebola. Des enquêtes pour déterminer la source de l'épidémie sont en cours. Dans sa déclaration, le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, a précisé que les équipes de la division provinciale de la santé et de la zone de santé de Mbandaka sont déjà sur le terrain pour mener des activités de riposte, notamment le pistage et le suivi d'environ 74 cas, ainsi que la décontamination des centres médicaux par où était passé le patient, ainsi que certains ménages. Selon Dr Machidiso Mweti, directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour l'Afrique, la maladie a pris une longueur d'avance de 2 semaines, rassurant tout de même que les autorités sanitaires de la RDC ont plus d'expérience que quiconque dans le monde pour contrôler rapidement les épidémies d'Ebola. Notez que la RDC a connu 14 épidémies d'Ebola depuis 1976. Il y a eu 6 épidémies depuis 2018 seulement. Dans la province de l'Équateur, les précédentes flambées remontent à 2020 et 2018 avec respectivement 130 et 54 cas enregistrés.
Autre nouvelle, au Nord Kivu, des combats ont repris depuis ce samedi après-midi opposant les FARDC aux rebelles du M23 dans la région de Djomba, territoire de Rutshuru. Si Famagourou, les deux parties se rejettent la responsabilité sur la reprise des hostilités.
Le porte-parole des opérations Sokola 2, joint dans la soirée ce samedi, a indiqué que les forces régulières avaient bien observé le cessez-le-feu conformément aux instructions de leur hiérarchie. Leur riposte s'explique quand ils ont établi le constat que leur position de Bougoussa venait d'être attaquée par ces rebelles en violation du cessez-le-feu. Le lieutenant-colonel Ndike Kaiko Guillaume affirme que les FARDC étaient dans leur droit de se défendre et les combats se sont poursuivis jusqu'à tard dans la nuit. Sur un autre plan, le M23, dans un communiqué rendu public ce samedi 23 avril, souligne avoir répondu aux provocations des FARDC. Ce même communiqué accuse les FARDC d'avoir lancé l'offensive dans l'intention de perturber les dialogues de Nairobi. Cette reprise des affrontements intervient 13 jours après la décision unilatérale de ces mouvements de décréter un cessez-le-feu. Le M23 avait alors décidé de se retirer de ses positions défensives d'avant le 6 avril, notamment dans la région stratégique de Tchanzu et Runyoni. Notez que cette reprise des combats a engendré une panique dans la région, occasionnant une nouvelle fois la fuite des populations qui venaient à peine de regagner certains villages, rapportent des sources locales. Goma, Sifamagourou, Radio Okapi.
Alors, notons que c'est à cause de cette reprise d'affrontements sur le terrain par le M23. À Nairobi, au Kenya, la partie gouvernement aux consultations des groupes armés a chassé de la salle hier samedi le membre du M23 Makenga, Noël Aluzitu.
Selon un communiqué de la présidence de la République, tout avait pourtant bien démarré entre l'équipe d'experts désignés par le président congolais et les premiers groupes armés arrivés à Nairobi sous la facilitation kenyane et en présence des observateurs de l'Ouganda, du Rwanda, du secrétariat général de l'ERC et du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU. En pleine consultation en début de soirée, les participants ont été surpris d'apprendre la reprise des hostilités par les M23 dans le Nord Kivu. La partie gouvernementale constituée du mandataire spécial, professeur Serge Tshibangu, le coordonnateur du mécanisme national du suivi des accords, Claude Ibalanki, et du général François Kabamba, conseiller militaire du chef de l'État, a exigé et obtenu de la facilitation de l'expulsion immédiate de la salle du M23 Makenga. Les consultations se sont poursuivies après cette suspension avec les autres groupes armés, signale le communiqué, précisant que les émissaires du président Tshisekedi sont restés fermes dans cette position malgré le recours des belligérants du M23 Makenga. Prenant la parole à cette séance inaugurale, les représentants des groupes armés ont notamment déclaré qu'ils n'ont pas l'intention de combattre le régime du président Tshisekedi, étant donné que tous ont combattu, par une lutte politique ou armée, le régime passé. Ils sont disposés à faire avancer ce processus, ont-ils dit. Par ailleurs, le mandataire spécial Serge Tshibangu a transmis aux participants le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a voulu, à travers ses consultations, accorder une dernière chance à ses compatriotes à déposer les armes et profiter de l'actuel mécanisme PDDR-CS pour intégrer la vie sociale. La facilitation kényane a rassuré que d'autres groupes armés locaux basés en Ituri, au nord et sud Kivu, sont attendus dans la capitale kényane ce week-end.
Autre nouvelle, en Ituri, le collectif des femmes demande aux autorités de la justice militaire de réformer ce secteur pour mieux rendre service aux filles et fils de cette province en quête de paix et de justice. C'était au cours d'une rencontre hier samedi à Bunia entre une délégation de ces femmes et le premier président de la haute cour militaire de la République. Ce dernier séjourne au chef-lieu de la province de l'Ituri depuis jeudi dernier. C'est pour une mission d'évaluation de l'appareil judiciaire en cette période de l'état de siège. Une occasion, Clarisse Ziyundula, pour ces femmes de présenter leurs doléances en faveur d'une justice plus efficace.
Au cours de cette rencontre, plusieurs faiblesses ont été relevées par ces femmes, notamment le non-respect de la loi en matière des traitements des affaires liées aux violences sexuelles et basées sur le genre, ou encore l'allongement du délai des traitements des dossiers. Selon la loi congolaise, les questions de violences sexuelles doivent être traitées et jugées dans un délai maximal de 3 mois. Mais depuis l'instauration de l'état des sièges, ont soutenu ces femmes, les procédures de ce genre d'affaires durent plus longtemps. Le collectif des femmes de l'Ituri dit avoir également constaté que certains interrogatoires des victimes sont menés dans des audiences publiques sans protection de ces dernières. Une pratique contraire à la loi et qui, selon ces femmes, décourage les victimes à porter plainte contre les bourreaux. D'autres plus. Pour finir, ces femmes ont demandé au patron de la justice militaire de faire respecter la loi dans ses juridictions, mais également de recycler ses acteurs en matière de violences sexuelles et basées sur le genre. De son côté, le général Mutombo Katalai a promis à ses interlocutrices de trouver des solutions à leur demande. Il leur a également demandé de renforcer leur collaboration avec la justice militaire et de continuer à signaler les failles pour améliorer ce secteur. Bunia, Clarisse Zindula, Radio Okapi.
Par ailleurs, les activités judiciaires sont paralysées dans le territoire d'Idiofa, dans la province du Kwilu. 45 dossiers sont en souffrance depuis le départ d'un de deux juges qui siègent au tribunal de paix. La nouvelle société civile indique que cette situation est à la base de la récente évasion des détenus au parquet, presse et tribunal à la suite de longues procédures sans décision judiciaire. Arsène Kassiama, coordonnateur, exige, outre l'affectation des magistrats, l'installation d'un tribunal de grande instance dans le territoire d'Idiofa afin d'éviter les cas d'évasion et de justice populaire fréquents dans cette partie de la province. Il a été joint par Irène Mbouma.
Nous avions un des juges, il est rentré sur Kinshasa. Suite à un problème purement personnel, il a plié ses bagages, il a laissé 45 dossiers en souffrance. Donc depuis qu'il est ici plus de 6 ans, jamais prononcé un dossier et il est rentré. Nous nous demandons maintenant, quel est le sort de nos prévenus ici à Idiofa? Nous demandons au conseil supérieur de la magistrature de pouvoir nous envoyer des magistrats à Idiofa, tant au tribunal comme au parquet. Parce que vraiment ça ne va pas. Qu'un tribunal de grande instance soit aussi implanté à Idiofa, parce que Idiofa c'est un grand territoire de 2000 km². La distance qui sépare Idiofa de Boulou est très grande. Au niveau du parquet, c'est un seul magistrat. Au niveau du tribunal aussi, un seul magistrat. Vous voyez, l'évasion au niveau du tribunal, c'était suite à cela, parce que nous avions reçu la réclamation des prisonniers qui disaient que leur tribunal avait beaucoup duré. Au lieu de prononcer, on ne prononçait pas.
Autre nouvelle, dans le territoire de Miabi, 28 maisons ont été incendiées et des biens emportés dans le groupement de Bakwa Kalubi Banabadinanga. À la base de cette situation, d'après les sources sur place, l'annonce de l'arrivée dans le groupement de la dépouille mortelle d'un collaborateur du chef de groupement désavoué par la famille régnante. Ce collaborateur est mort la semaine dernière à la prison de Mbujimayi. Le membre de sa famille exige que son corps soit inhumé dans son village natal. Des explications avec Esther Ndalafina.
La tension reste perceptible malgré la présence des policiers déployés sur place par les autorités provinciales, indiquent nos sources sur place, qui redoutent un regain de violence à l'arrivée de la dépouille mortelle du collaborateur de l'ancien chef de groupement désavoué par les membres de sa famille. La nouvelle de son décès mercredi à la prison d'Mbujimayi a créé une vive tension dans le groupement. Quelques sympathisants du défunt ont incendié 28 maisons pour manifester leur mécontentement. L'administrateur de territoire donne un bilan officiel de 10 maisons incendiées. Pour la petite histoire, le défunt était collaborateur du chef désavoué par la famille. Pendant que la famille exprimait son désaveu, le défunt avait été soupçonné par la famille du chef en exercice d'avoir créé des troubles et l'incendie des maisons. La justice avait été saisie du dossier par les victimes. C'est ainsi que le défunt avait été gardé à la prison de Mbujimayi pendant plusieurs mois jusqu'à sa mort. Quelques habitants souhaitent que le défunt soit enterré en toute dignité dans son village. D'autres rejettent cependant cette possibilité. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Au Congo central, Monseigneur André Giraud Pindi Mwanza passe de l'administrateur apostolique à l'évêque du diocèse de Matadi. L'annonce de sa nomination par le pape François a été faite ce 23 avril 2022 par une correspondance du secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO. Dans ce document, le secrétaire général de la CENCO se réjouit de cette nouvelle et souhaite au nouvel évêque du diocèse de Matadi un fructueux ministère épiscopal dans ce diocèse. Qui est donc Monseigneur André Giraud Pindi Mwanza? Son portrait avec Nana Plurichemambo.
Ordonné prêtre le 18 septembre 1994, Monseigneur André Giraud Pindi Mwanza, nommé nouvel évêque du diocèse de Matadi, est né le 24 juillet 1964 à Kindomingielo, dans les territoires de Madimba au Congo central. Le nouvel évêque du diocèse de Matadi a été au grand séminaire de Maïdi, où il a achevé ses études en philosophie. Au grand séminaire Saint-Jean 23 de Kinshasa, André Giraud Pindi en est sorti avec un diplôme de théologie. Il est aussi licencié en droit canonique de l'Université catholique du Congo à Kinshasa et doctorat en étroque lure de l'Université pontificale du Latran. Au service sacerdotal, il a occupé plusieurs postes. Tour à tour, vicaire de la paroisse Notre-Dame de la Sagesse à Kinshasa, maître de la conférence en droit au grand séminaire interdiocésain de Maïdi, défenseur du lien dans les diocèses de Lausanne, Genève et Fribourg. En 2019, il devient vicaire général du diocèse de Matadi. C'est en 2021 qu'il est nommé administrateur apostolique du diocèse de Matadi après le décès de feu Monseigneur Daniel Landoumaï. La nomination d'André Giraud Pindi Mwanza a suscité une liesse chez les fidèles catholiques du diocèse de Matadi qui, depuis cette annonce, publie des photos du nouvel évêque avec des bons vœux sur les réseaux sociaux. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Et puis parlons culture dans cette édition du journal. La République démocratique du Congo est l'invité d'honneur de la 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, qui aura lieu du 10 au 15 mai prochain autour du thème « Entrepreneuriat et employabilité des jeunes à Abidjan, Côte d'Ivoire ». L'annonce a été faite ce samedi au cours d'une conférence animée par le commissaire général de ce festival, l'artiste ivoirien Salif Traoré, dit Asalfo, patron du groupe Magic System. Le choix de la RDC intervient après celui du Sénégal et du Burkina Faso. Selon Asalfo, deux critères ont motivé ce choix de la RDC, entre autres la mort de Papa Wemba il y a 6 ans sur la scène de ce festival et l'inscription de la rumba comme patrimoine mondial culturel immatériel de l'humanité. On écoute Asalfo au micro de Jean-Marc Matouaki.
La première des choses, vous savez qu'aujourd'hui nous sommes à la veille de l'hommage au 6e anniversaire de la mort de Papa Wemba. Il est tombé sur la scène du FEMUA. Nous avons jugé que inviter le Congo en Côte d'Ivoire, c'est rendre un grand hommage à ce monsieur qui, de son vivant, avait souhaité que le FEMUA soit une source d'intégration pour les pays africains. Ça, il me l'avait dit et je crois que c'était même la veille de sa mort. Donc, j'ai jugé aujourd'hui utile d'inviter la RDC, le pays de cet homme-là qui est tombé arrivée au FEMIA pour renforcer encore, parce que sa mort a renforcé les liens entre le Congo et la Côte d'Ivoire. Et puis après, on s'est dit aussi que cette année, la Rumba a été faite patrimoine immatériel de l'UNESCO. Moi, je suis ambassadeur de l'UNESCO depuis 10 ans et j'ai voulu joindre l'utile à l'agréable. Une chose est de rendre hommage à Papa Wemba, mais une autre chose est de rendre hommage à la musique qu'il a promue à travers son art. Donc, ça sera une double joie pour nous d'accueillir le Congo dans toute sa diversité, parce que quand on dit inviter le Congo, c'est pas pour venir seulement danser et chanter, c'est pour que le Congo montre au public africain, au public ivoirien, au public ouest-africain, toute sa diversité.
Actualité internationale.
En île Maurice, cette île fait donc face à une violente fronde des habitants de plusieurs quartiers révoltés contre la hausse des prix et la répression policière jugée excessive au départ. 3 meurtriers ont été arrêtés, un homme a été blessé par balle et 13 policiers ont nécessité des soins urgents après des affrontements. Le calme est revenu samedi soir, mais les forces de l'ordre sont sur les qui-vive. Et puis, naufrage au large du Japon, 9 personnes retrouvées, 17 toujours portés disparus. Les gardes-côtes de la police, les forces japonaises d'autodéfense et des pêcheurs locaux participent aux opérations de recherche à la fois maritimes et aériennes. La mer est agitée et les eaux de la région sont très froides actuellement, avec une température de 2-3 degrés en journée à peine.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est le docteur Eric Mukumena, directeur du programme national de lutte contre le paludisme. Il revient sur la situation du paludisme en RDC et les défis à relever dans la lutte contre cette maladie qui touche près de 22 millions de personnes entre 2020 et 2021. Docteur Eric Mukumena s'entretient avec Pierrot et la Mégie. Suivez.
Docteur Eric Mukumena, bonjour. Quelle est la situation du paludisme en RDC à ce jour?
À ce jour, nous avons terminé l'année 2020 dont le rapport est disponible avec à peu près 22 millions de cas de paludisme. 2021, c'était l'année passée, nous avons terminé cette année avec à peu près un sinistre record de à peu près 21 millions de cas de paludisme. Là où ça nous a piqué par rapport à 2020 et 2021, c'est le nombre d'essais qui a commencé à augmenter. L'OMS a sonné l'alarme parce que cette situation de décès qui a augmenté, c'est une tendance générale qui a été observée pendant la période de la pandémie de Covid-19. Et donc, ça a vraiment impacté les cas de décès dans la République et puis partout dans le monde.
Quelle est la procédure la plus efficace mise en place dans la politique de lutte contre le paludisme en RDC?
En RDC, par rapport à la prévention, l'État mobilise suffisamment des ressources. Nous faisons des campagines de distribution municipale imprégnées d'insecticides. Nous incitons la population, sensibilisons la population à utiliser ces moustiquaires, à dormir toutes les nuits sous moustiquaires imprégnées. À tour de rôle, chaque 2 ans, chaque 3 ans, nous renouvelons le nombre de moustiquaires dans les ménages. Au-delà de ça, à travers la consultation prénatale, les femmes enceintes reçoivent aussi les moustiquaires et à travers la consultation préscolaire à la CPS, les enfants qui fréquentent la pesée, les services d'immunisation, de vaccination, reçoivent aussi les moustiquaires imprégnés. À partir de quelques années, l'État congolais s'est aussi engagé à protéger les enfants d'âge scolaire, d'école primaire, et donc nous organisons aussi les campagnes de distribution moustiquaire imprégnés dans les écoles. Au-delà de ça, l'État congolais mobilise suffisamment de médicaments et de tests pour diagnostiquer et traiter tout cas de paludisme. Et je rappelle ici que dans la politique nationale, l'État, le traitement du paludisme est subventionné, c'est gratuit. Les médicaments sont gratuits et les tests rapides sont gratuits. L'État congolais est en train de réfléchir à comment introduire d'autres stratégies comme la chimioprophylaxie préventive du nourrisson. Donc les enfants qui ont l'âge de la vaccination vont commencer à recevoir dans un culture très proche, la sulfadoxine pyrimétamine, connue plus sur le Fantidac, toujours dans la prévention. Et dans les régions qui ont des paludismes saisonniers, on est en train de mobiliser les ressources pour qu'on puisse faire les traitements, la chimioprophylaxie préventive du paludisme avec des médicaments. Nous sommes en train d'étudier l'introduction du vaccin. Le vaccin, comme vous le savez, le vaccin a été validé par l'Organisation mondiale de la santé. En 2023, nous allons introduire le vaccin à petite échelle ici en République démocratique.
Est-ce qu'y a-t-il aujourd'hui quelques faiblesses à relever dans la stratégie qui vont pousser, par exemple, tous les partenaires impliqués dans l'amélioration de la prise en charge, la lutte contre le paludisme?
Bien, je pense que l'État congolais, vous le savez, vous avez suivi avec moi, est en train de mécaniser, d'ajouter des nombres déjà qui vont bénéficier du salaire et de la prime, des risques. Ça, c'est un grand pas parce que ça va faire en sorte que les petits tickets modérateurs que certains prestataires dans des camps isolés qui ne sont pas payés vont renoncer à ces petits tickets modérateurs, ce qui va rendre vraiment la gratuité très très palpable et ça sera dans les bénéfices des personnes qui se rendent dans les zones de santé, dans les centres de santé, dans les hôpitaux de l'État. Secondo, par rapport aux médicaments qui circulent, nous attirons l'attention que les médicaments qui entrent dans les pays, ce sont des médicaments de qualité. Vous avez tout intérêt à aller dans un centre médical qui est subventionné par l'État. Vous allez être bien soigné avec des médicaments de qualité.
Et la dernière question, docteur, quels sont les défis majeurs à relever aujourd'hui dans la lutte contre le paludisme en RDC?
C'est d'abord les ressources humaines. On observe ces derniers temps beaucoup de changements depuis que la santé est devenue décentralisée. Ça veut dire qu'il y a des mises en place qu'on fait les matins, les soirées, mises en place au niveau décentralisé. Et je pense que je plaide plus pour une stabilité des ressources humaines. Le deuxième défi majeur, c'est que l'utilisation effective des outils de prévention, la mousquetaire imprégnée. J'encourage tous les ménages à adhérer à l'utilisation effective de la mousquetaire imprégnée. Troisième défi majeur qui nous attend, c'est la multisectorialité de la lutte contre le paludisme. C'est une lutte qui est multisectorielle. Il y a la santé à sa place, d'autres. Et enfin, dans la même lancée, c'est la création du conseil pour l'élimination du paludisme que nous appelons de tous les voeux, qui va mobiliser les ressources à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays pour vraiment faire de la lutte contre le paludisme une lutte plus holistique.
Docteur Eric Mkomena, je vous dis merci.
Merci, bonne journée.
Directeur du programme national de lutte contre le paludisme, Dr Eric Mkomena, il s'exprimait en marge de la célébration ce 24 avril de la journée mondiale contre le paludisme. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.